Et pour la culture, vous retrouvez à présent Pascal Paradou. Bonjour Pascal.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Bonjour.
La fête commence.
Levez-vous. Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez assister à notre conversation?
Culture vive.
Il y a du feu, il y a de la terre, il y a la pluie et il y a le souffle de la parole.
À consommer sa modération.
Le monde et moi. Et moi dans le monde.
Parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent.
Culture vive, Pascal Paradou.
Sauf votre respect, j'ai envie aujourd'hui de crier « Vive les vieux !» Non pas pour justifier une émission chevrotante et vanter les mérites de l'âge ou de la prétendue sagesse des seniors, pas du tout, car on peut être vieux et jeune, et fringant et léger, la preuve avec Pierre Soulages, 90 ans à Noël, et Alain René, 87 ans depuis cet été. L'un et l'autre n'ont jamais autant créé, inventé, n'ont jamais été aussi lumineux dans leur démarche, et ils sont à l'affiche à Paris en ce moment, avec pour le premier une rétrospective au Centre Pompidou. Pierre Soulages, vous savez, c'est le peintre du noir. Toutes les grandes capitales culturelles lui ont consacré des expositions, Dakar, New York, Saint-Pétersbourg, Berlin et enfin Paris. Cela faisait une trentaine d'années qu'il n'avait pas eu une exposition de cette ampleur. Enfin, ai-je envie de dire, car c'est un monument de l'art. L'autre immense artiste, mais le mot de monument ne lui va pas du tout, c'est le cinéaste Alain René, dont le nouveau film Les Herbes Folles sort ce mercredi sur les écrans. Prix exceptionnel du jury à Cannes, acclamé au dernier festival de New York, Les Herbes Folles parle du désir, de la passion, de l'irraisonnable, avec des effets de surprise, des coups de théâtre à répétition, des impromptus. Bref, c'est du grand René, et André Dussolier, qui fait partie de ses comédiens fétiches, c'est son sixième film avec lui, viendra nous raconter cette histoire et la manière dont René conçoit le cinéma. Ce sera dans une petite demi-heure. Mais tout de suite, le téléphone sonne à...
Salvador de Bahia.
Bonjour Dominique Viéville, vous êtes le directeur du musée Rodin de Paris, mais si vous êtes au Brésil, c'est que vient de s'ouvrir à Bahia une annexe de ce musée.
Non, on ne peut pas parler d'annexe, c'est un dépôt. Ce dépôt est présenté dans un palais, une maison familiale, en fait très belle, construite en 1912, restaurée conformément, je dirais, son décor, son architecture, très bien restaurée, qui accueille cette collection. Et le musée Rodin de Bahia va avoir sa propre politique culturelle, de diffusion, d'exposition. Donc il ne s'agit pas d'une annexe. Le musée, j'allais dire, se donne, comme tout musée, une politique à la fois de diffusion des collections, de ces 62 œuvres de Rodin qui sont significatives de l'ensemble de l'œuvre, et d'autre part, une politique d'activité, comme tout musée.
62 œuvres donc de Rodin sont déposées à Bahia. Parmi les plus célèbres, le Baiser ou le Penseur. Ça veut dire que les originaux ont quitté Paris pour le Brésil ?
Alors, en matière de sculpture, il est toujours difficile de parler d'originaux, puisque un atelier comme Rodin produisait à partir d'une même œuvre différents types d'œuvres, qu'elles soient en bronze, en marbre ou en plâtre. Donc, on a au musée Rodin de Bahia à la fois des bronzes, des plâtres et des terres cuites.
Concernant le penseur, c'est lequel par exemple ?
Alors, c'est un plâtre du penseur réalisé, qui appartient à la collection du musée, donc inscrit sur l'inventaire du musée Rodin, qui a été réalisé du vivant de Rodin.
Est-ce que les Brésiliens sont très sensibles à cette sculpture et à ce sculpteur-là, Dominique Viéville ?
Alors, l'idée du musée, de ce projet, en 2002, vient à la suite d'une série d'expositions commencée à Rio de Janeiro en 1995, une série d'expositions présentées de monographiques sur l'œuvre de Rodin à Sao Paulo, à Recife, à Salvador de Bahia déjà, puis de nouveau à Sao Paulo, qui est une série d'expositions qui a rencontré un énorme succès, de l'ordre de 250 000 à 300 000 visiteurs à chaque fois. C'est donc à la suite de cette série d'expositions que l'idée est venue de consacrer à Salvador de Bahia un musée à l'œuvre de Rodin, en partant, j'allais dire, de cet intérêt pour son œuvre, qui était tout à fait évidente de la part des visiteurs brésiliens.
C'est la première fois qu'il y a un musée Rodin hors Paris, dans le monde.
Alors, il existe d'autres musées Rodin, mais sous forme de musées où les œuvres appartiennent en pleine propriété aux institutions. C'est vrai pour les États-Unis, mais surtout pour les musées les plus récents. La fondation Samsung a créé un musée Rodin à Séoul. Il existe un musée Rodin à Shizuoka au Japon, créée par la préfecture de Shizuoka. Donc les musées Rodin, je veux dire, existent du fait même de cette possibilité qu'a le musée Rodin de continuer, c'était le souhait de Rodin et cela figure dans la donation telle qu'elle, de pouvoir continuer l'édition originale de ses œuvres dans les limites de la réglementation, c'est-à-dire des 12 exemplaires.
Donc c'est un nouveau musée qui s'ouvre à Salvador de Bahia, un musée Rodin. Merci Dominique Vieville.
That sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart, you've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed.
Billie Holiday dans les écouteurs à la radio pour le plaisir, le temps de prendre le chemin de Beaubourg.
C'est pas nous qui avons fait la révolution. C'est la révolution qui nous a fait.
Culture vive, Pascal Paradou.
Le peintre du noir, ou plutôt de l'outre-noir, comme il aime à le dire, à la veille de ses 90 ans, le Centre Georges Pompidou rend hommage à Pierre Soulages, l'un des derniers géants du XXe siècle, avec une rétrospective qui va de 1946 à aujourd'hui. Bonjour Pierre Soulages.
Bonjour monsieur.
Est-ce que vous êtes bien parmi vos tableaux? Est-ce qu'ils sont agréables à vivre?
Oui, je ne vis pas avec. C'est ceux qui les regardent qui vivent avec. Moi, je vis toujours avec le tableau que je vais faire demain. Je suis tourné plutôt vers ce que je vais faire que vers ce que j'ai fait.
Mais quand vous les regardez, est-ce qu'ils évoquent pour vous un temps précis, une époque précise, un état intérieur particulier?
Oui, et d'ailleurs, pour moi, ils changent aussi. Je ne les vois pas toujours avec les mêmes yeux. C'est ce que je cherche. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'on m'appelle le peintre du noir parce qu'on pense à la quantité de noir que j'utilise. Mais en réalité, je préfère quand on m'appelle le peintre de la lumière. De la lumière réfléchie par des états de surface du noir. Ce qui est quand même intéressant de penser qu'il y a de la lumière qui réfléchit par la couleur qui est la plus grande absence de lumière qui est le noir. Et c'est ça qui est au cœur de mon,
c'est votre préoccupation.
De mon travail, de ce que je fais.
Vos premiers tableaux, Pierre Soulages, datent de 1946, en tout cas ceux que l'on voit ici au centre Georges Pompidou. Ce sont des fusains ou des dessins à la broue de noix. Ce sont vraiment les premiers tableaux noirs?
Non, j'ai toujours travaillé avec du noir. Enfant, mais je n'étais pas un peintre, j'étais un enfant. On me donnait des couleurs. Et on comprenait pas pourquoi je préférais tremper mon pinceau en criant encre noire et pourquoi j'ai dédaigné les couleurs. Alors ces histoires qu'on a racontées, je n'oserais pas les raconter de nouveau. Mais une fois, on m'avait demandé « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pierre ?» J'étais en train de balafrer du papier blanc avec du noir. Et j'ai répondu « De la neige ». Alors ça a été tellement un tel éclat de rire qu'on s'en est souvenu. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard, mais bien plus tard, quand j'y réfléchis, je me suis aperçu que c'était une des couleurs d'origine de la peinture. Puisqu'il y a 340 siècles, c'est ce que l'on connaît de plus ancien maintenant, avec la grotte Chauvet, des hommes descendaient dans les endroits les plus obscurs de la Terre, dans la noire absolue des grottes, peindre, et ils allaient peindre avec du noir. Ce qui est surprenant. Puisqu'il y a partout une pierre blanche qui marque sur une pierre claire qui marque sur une paroi, eh bien non. Et puis ils n'ont pas fait ça une fois, ils ont fait ça pendant des siècles et des siècles. 340, Lascaux 180, 160, 140. Ils ont continué à aller dans le noir peindre avec du noir et de l'encre rouge, de la terre. La terre rouge. Mais enfin, c'était le noir toujours. C'est assez Enfin, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas de réponse là, mais c'est une remarque troublante.
Vous vous sentez en contact avec ces hommes-là, avec ces artistes-là ?
Oh, quelquefois, oui. Quand j'aime une toile, je me sens proche, beaucoup plus proche d'eux, quelquefois, que des peintres du XVIIIe siècle.
Mais vous n'avez jamais été figuratif, par exemple ? Vous n'avez jamais...
Écoutez, non. Je n'ai jamais été un artiste figuratif.
Mais
jamais.
Même secrètement, hein, j'entends.
Oh, non, encore moins. Non. Figuratif honteux, sûrement pas. non, mais j'ai fait des études. J'ai copié des antiques, j'ai copié des modèles vivants. J'ai formé mon œil et ma main de cette manière-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise manière. Mais je n'ai jamais eu de tableau... Si, quand j'étais étudiant, j'ai bien dû faire une peinture du Pont-Neuf ou une peinture avec des arbres. J'aimais bien peindre des arbres, l'hiver, sans feuilles. Mais quand on y pense, un arbre sans feuilles... l'hiver, c'est un dessin dans l'espace. C'est au fond une sorte de sculpture abstraite. Si on est touché par les formes d'un arbre l'hiver sans feuilles, c'est de la même manière qu'on l'est devant une sculpture abstraite. Ce sont les qualités physionomiques des formes qui agissent sur notre sensibilité, leur organisation et leur qualité plastique.
On parlait des premiers dessins de 46, Pierre Soulages. Il y a quand même une évolution dans votre peinture qui est très très grande. Dans les années 70, par exemple, vous avez mis un peu de couleur. Il n'y a pas que du noir dans les tableaux des années 70.
Oui, ça n'a pas cessé l'évolution. Mais c'est en 79 qu'il y a un événement qui s'est produit dans ma... Parce que je ne sais pas toujours... Je ne sais jamais ce que je vais faire. Je suis toujours attentif à ce que je ne connais pas. Et en 79, j'ai découvert que je regardais... le noir d'une autre manière. C'était de la lumière réfléchie par des états de surface du noir. Et de là a commencé toute une période qui est celle qui est abondamment représentée ici. Et c'est celle que j'ai appelée outre-noir. Outre-noir pour désigner non pas ultra-noir, pas du tout, pas plus noir que le noir, c'est pas ça du tout, c'est le contraire même. Outre-noir, c'est pour désigner un autre champ mental. Comme Outre-Rhin, Outre-Manche désigne un autre pays, Outre-noir désigne un autre pays que celui atteint en nous par le noir.
Ce sont des tableaux de contemplation, en fait, qui supposent la contemplation.
Ça peut être vu de cette manière-là, mais si l'on bouge devant ces tableaux, on voit naître des lumières, des organisations de lumière qui se défont, et qui se défend au profit d'une autre, si on change de place, ou si la lumière change. Et c'est ce qui m'a intéressé dans toute cette période, qui continue d'ailleurs, puisque il y a plus de 30 ans de peinture comme ça, et qui n'a pas cessé mes toiles n'ont pas cessé de changer, elles sont toutes différentes.
Mais la dernière exposée date du 2 mars 2009. Donc ça veut dire que vous continuez à peindre. Et là, vous n'avez jamais dévié, d'ailleurs.
Ah, mais je continue, j'espère bien. J'espère bien même continuer. Je peux dire que les expositions que je fais en ce moment m'en empêchent.
Mais donc, tous les jours, pratiquement, vous peignez, enfin, ou toutes
non,
les
non,
semaines.
Non, pas tous les jours. Mais j'ai des crises. Mais quand je suis en crise de peinture, eh bien, je ne fais que ça. Et je ne regarde pas s'il fait jour, s'il fait nuit, je travaille tout le temps.
Mais c'est quoi? C'est une pulsion? Ah oui, vous dites crise.
Bien, c'est une pulsion, mais ce n'est pas qu'une pulsion irraisonnée. C'est aussi une interrogation et une recherche de ce qui va loin en moi, en pensant, est-ce que ça ira aussi loin chez celui qui va le regarder?
Il y a une formule que j'aime beaucoup de vous, Pierre Soulages, c'est « je ne dépeins pas, je peins ».
Oui, c'est ça. Je ne représente pas, je présente. C'est la même chose.
Alors, en même temps, ces dernières années, j'ai l'impression que la matière est de plus en plus épaisse dans vos tableaux. Et d'ailleurs, dans cette exposition, les tableaux sont dégagés du mur pour être présentés presque comme des sculptures.
Non, ils sont présentés comme des murs. Quand on voit des tableaux sur un mur, il y a deux choses. D'abord, le tableau, c'est un rectangle retranché au mur comme l'est une fenêtre. Même si ce n'est pas une fenêtre. D'une part. D'autre part, quand on met des tableaux sur un mur, on les juxtapose, et en les juxtaposant, on émet un sens, le sens des lumières. Et c'est ce sens qui est celui qu'a établi celui qui a accroché le tableau. La suite, la succession dépend de celui qui accroche. Or, quand on met un tableau dans l'espace, on évacue ce problème-là. Le spectateur est libre de circuler, de comparer un tableau à un autre. On ne lui impose pas de sens. Il est libre de créer son propre sens. C'est une des raisons. Et d'autre part, je trouve qu'il est beaucoup plus normal de voir un tableau qui joue avec la réflexion de la lumière comme un mur, car un tableau dans l'espace, ce n'est plus une fenêtre, c'est un mur. Un mur en lévitation, puisqu'il ne touche pas au sol, mais enfin c'est un mur. Et je trouve ça plus normal de voir la réflexion s'opérer sur un mur que sur ce qui pourrait être une fenêtre.
Donc l'idée de la sculpture ne vous intéresse pas forcément dans cet accrochage. En même temps, Léopold Sédar Senghor, avec qui vous avez été très proche, parle de sculpture à propos de vos œuvres. Il a écrit en 58, je crois, avant même votre exposition de Dakar de 74. Oui. Et il parlait de la similitude, finalement, de vos peintures avec l'art nègre, pour aller vite.
Oui, mais attention, il parlait de l'émotion devant l'art nègre. Il parlait de l'élégance, qui est en réalité un mépris de l'élégance. Il parlait des mots de cet ordre-là. Et il comparait cet aspect-là de ma peinture à ce qu'il ressentait devant des sculptures africaines. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas une comparaison de peinture à sculpture. C'est une comparaison entre l'émotion, l'organisation des formes et l'émotion que cela procure sur la sensibilité de celui qui regarde.
Oui, il voyait quand même qu'il y avait quelque chose du style des idéogrammes négro-africains dans vos peintures. Est-ce que vous vous sentez lié avec...
On a vu aussi des rapports avec les idéogrammes orientaux dans la chose de 46, 47.
Pierre Soulages, vous avez toujours mis les tailles de vos tableaux. Ce sont les titres, en fait.
Le titre, c'est la matérialité. Toujours. Pour bien montrer que le tableau se limite à ça. Et la réalité de l'œuvre, ça ne se réduit pas à la matérialité, ce qu'on pourrait croire quand je donne des titres matériels, comme celui que vous venez de me citer. La réalité de l'œuvre, c'est le triple rapport qu'il y a entre ces trois éléments, celui qui l'a produite, la chose qu'elle est, et celui qui la regarde.
Alors, si on parle de l'histoire, Pierre Soulages, dans quel mouvement de la peinture et de l'art vous inscririez? Parce que ça pourrait être conceptuel, ce que vous racontez, mais vous n'êtes pas seul.
Je ne crois pas au mouvement.
Vous ne croyez pas au mouvement?
Je ne crois pas au mouvement, je ne crois pas aux écoles, je ne crois pas aux titres. Un exemple. Manet, c'est l'impressionniste, vous direz. Sisley ou Pissarro, c'est l'impressionniste aussi, Pissarro. Pissarro-Manet, quels sont les points communs qu'il y a? Ce qui entre, si on en découvre des points communs, c'est justement c'est sans intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce que Manet a d'unique, d'irremplaçable. Et Pissarro, la même chose. Je montre par là que ces manies de grouper les choses par école, par mouvement, ce sont des manies d'historiens, de classificateurs. C'est intéressant, c'est pas inintéressant. Mais ça intéresse plutôt des sociologues ou des historiens. Ça n'intéresse pas l'art, proprement dit.
Donc ce qui compte, c'est peut-être le coup de poing, comme disait Senghor.
Oh non, c'est pas encore un coup de poing. C'est aussi la manière dont ça se prolonge dans l'émotion, dans l'imaginaire, dans tout ce que l'émotion artistique met en route dans un individu. Et ça peut commencer par un coup de poing, mais c'est pas seulement ça.
Aujourd'hui, vous pensez quoi du succès de votre exposition, Pierre Soulages? Parce qu'il y a foule.
Oui, je suis très content que les gens s'intéressent à ce que je fais. Ça n'a pas été toujours le cas. Mais maintenant, les gens, quand même, se sont ouverts, ont ouvert les yeux, et s'intéressent à ce que je fais. Ils arrivent devant mes toiles, non pas avec le noir dans la tête, en disant tout ça c'est fait avec du noir, ils arrivent en pensant qu'il faut regarder, et que c'est avec les yeux que l'on voit la spécificité de ce que je fais.
Donc le peintre radical est devenu presque consensuel? Non, ça c'est impossible.
Non, c'est toujours aussi radical. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de peintres qui travaillent de cette manière-là.
Pierre Soulages, sa rétrospective se déroule au Centre Pompidou jusqu'au 8 mars. Après les infos, en cause du nouveau film d'Alain René, Les Herbes Folles, avec le comédien André Dussolier. Culture Vive à suivre.